C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
On le présente comme soupe au lait. On décrit ses discours sur la souveraineté comme dangereux. J'accueille en studio le politicien le plus critiqué ces jours-ci en politique québécoise, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour.
Bonjour.
Et je vous ai regardé aller ces derniers temps. Vous avez été très critiqué. Il y avait toute la séquence où vous aviez été émotif à la suite de révélations de menaces sur votre personne, sur votre famille. J'ai envie de vous demander, en commençant, comment ça va?
Ça va bien. Ça va bien. Il y a des aspects de la politique qu'on ne contrôle pas. Puis des fois, il y a des semaines qui portent sur d'autres choses que les politiques publiques.
Ouais.
Puis on n'y peut rien. Donc, il faut apprendre à laisser un peu de... C'est lâcher prise d'une certaine manière. Ce que j'ai fait devant une série d'épithètes qui allaient dans toutes les directions, puis rendu à l'étape soupe au lait de mon. On était rendu vendredi, là, puis à tous les jours.
C'est M. Drainville qui vous a traité de soupe au
lait. Rendu à soupe au lait, je me suis dit, ce qui me reste, c'est de mettre du lait dans un bol, puis de faire un peu d'humour, parce que je peux pas non plus, et je pense pas que c'est le rôle d'un élu, de répondre à toutes sortes d'attaques personnelles à tous les jours, parce que pendant ce temps-là, on fait pas son travail, puis. Je ne suis pas sûr que c'est très éclairant pour la population non plus.
Mais c'est quand même le symptôme de quelque chose, M. Saint-Pierre Plamondon. C'est-à-dire que vous avez monté dans les sondages.
Oui.
Et là, bon, on critique le gouvernement partout, à l'Assemblée nationale, dans la société, dans les médias. Mais vous êtes hors du gouvernement. Vous êtes le politicien le plus critiqué, je pense.
On peut dire ça. Parce que sur la base de la semaine dernière, je pense qu'en effet, j'ai acquis ce titre-là.
Même ces derniers temps, c'est le symbole que ça va bien pour vous.
Aussi. Donc, c'est... En effet, il y a quelque chose de positif là-dedans, mais de mon côté, c'est de s'adapter, puis d'apprendre à lâcher prise. Je pense qu'on peut dire que je suis quelqu'un de... Je prends les choses au premier degré, je prends les choses à cœur.
Ouais.
Et il y a une habituation, parce
que... C'est ça, vous n'êtes pas
habitué à la critique. Je ne suis pas le gars le plus cynique, là. Je ne suis pas le gars qui... Tu sais, j'ai pas le profil de celui qu'on dit que tout coule comme sur un dos d'un canard, là. Pas trop mon profil, j'ai les choses à cœur. Les gens, je pense, apprécient ça de moi. Et oui, donc, je dois m'adapter à une nouvelle réalité politique où, à ma surprise un peu, le gouvernement n'est plus la cible des autres partis d'opposition. Et à ça s'ajoute Ottawa. Il y a comme un autre groupe de partis.
Même à Ottawa, on vous critique.
Exactement.
Mais non, non, mais regardez. Moi, je vous ai couvert là, quand vous vous êtes présenté au PQ une première fois.
Au tout début.
Vous n'étiez pas le gars qu'on critiquait. Là, vous l'êtes.
Ouais.
Je le dis avec empathie. C'est pas évident les premières fois. Là.
Non, on s'adapte. C'est faisable. Il n'y a pas de... Moi, j'ai beaucoup confiance aussi dans le jugement de la population. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se fait critiquer tout azimut que les gens ne voient pas clair dans la partie très partisane de la politique. Et c'est cyclique, c'est-à-dire qu'on va revenir à une partie plus intéressante assez rapidement. Hein. Il y a une semaine, c'est orageux, mais c'est comme la météo. La semaine suivante, on peut être sur des sujets très intéressants, très constructifs. Donc, il faut aussi apprendre à passer au prochain appel à travers tout ce bruit-là. Là.
Vous avez promis un référendum. Si vous êtes élu en 2026, les sondages vont bien, mais on sait, il reste beaucoup de temps avant l'élection. Dans la grande famille souverainiste, que ce soit des élus, que ce soit d'anciens élus, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont contacté pour vous dire « Paul, c'est peut-être pas une bonne idée de le promettre comme ça? »
Oui. Oui.
Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Mais pas beaucoup.
Okay.
En général... Les gens du milieu de l'environnement du Parti québécois sont très contents qu'on puisse dire ce qu'on en pense et assumer un projet de société qui, trop longtemps, a été enfoui et qui répond aussi à un changement de ton à l'échelle fédérale, à des événements, tant sur le plan politique, l'empiètement dans les champs de compétences, mais également des symboles très forts comme chanter le « God save the King » en réponse à un député acadien qui dit « à l'instar de ce qu'on a fait à Québec, qui dit « moi, je pense qu'on devrait arrêter le serment au roi ». Il y a des éléments comme ça, des moments qui parlent et qui fait qu'il y a beaucoup de satisfaction dans le fait d'assumer qu'on pourrait devenir un pays et que c'est une solution à bien des enjeux actuels. Puis oui, il y en a d'autres qui se disent « ben là, Paul, t'es populaire, est-ce que tu pourrais pas être un peu plus prudent?
»
Oui, c'est ça que tu penses, tu l'as déjà dit, tant mieux pour toi, mais est-ce que un peu plus de prudence serait avisé? Mais en même temps, ce serait me dénaturer, puis je sais pas, je considère pas que je dois m'adapter au sondage. Je pense pas que c'est ça que je t'appelais à faire. Donc, les sondages vont fluctuer, il y en aura d'autres, ils vont monter, ils vont descendre, ils vont aller dans toutes les directions, mais si je pense que le Québec est appelé à devenir un pays, puis que je suis convaincu que le moment historique nous attend plus vite qu'on pensait, C'est mon devoir de le dire, c'est ma responsabilité, indépendamment de tous les conseils que je peux recevoir dans une semaine.
Ça ne vous a pas ébranlé?
Non.
Je veux vous entendre sur ce troisième référendum, si vous êtes élu. Vous avez déjà dit que le deuxième référendum a accéléré une sorte de déclin de l'influence du Québec au Canada, que ça a permis au fédéral, on peut être d'accord ou pas, de prendre ses aises, disons. Si on perdait un troisième référendum, est-ce que ce serait pas pire que le statu quo?
Non, parce qu'on n'a pas de statu quo. On recule.
C'est très important de le situer.
Ben, c'est difficile de faire pire, là. Quand on voit un gouvernement fédéral empiéter sur toutes les compétences du Québec au point où le point de presse de Chrystia Freeland sur son budget ne porte, dans la quasi-totalité, là, ça ne porte que sur des champs de compétences du Québec. En toute désinvolture, en tout manque de respect. Et si on voit, il y a encore des nouvelles sur la langue française aujourd'hui, on perd un point de pourcentage à chaque année depuis 13 ans sur la langue avec laquelle on approche les gens dans les commerces. On regarde le sort des francophones dans le reste du Canada.
Une enquête de l'Office québécois de la langue française,
exact.
Je précise.
Mais mon raisonnement, c'est que l'histoire s'accélère et on risque fort de connaître ce que les francophones ont connu dans les autres provinces canadiennes, c'est-à-dire une marginalisation et un déclin dans quel cas marcher vers son destin peut aller à un rendez-vous historique. Moi, je ne crains pas ce moment-là. Au contraire, je l'anticipe très positivement. Je fais confiance aux gens. Et dans la mesure où il n'y a pas de statu quo, des fois, on pense que ne pas bouger, c'est ne pas reculer. Mais malheureusement, des fois, quand on fige sous la peur, on recule rapidement. C'est vrai dans sa vie personnelle. Ne pas prendre de décision, des fois, ça nous fait reculer. On est là-dedans. Et donc, en sachant qu'il y a un déclin qui nous attend dans le Canada, je pense qu'on n'a rien à perdre, puis on doit cesser d'avoir peur. On doit prendre nos responsabilités, exister et rassembler autour de la différence québécoise. Moi, je pense que des Québécois de toutes les régions, de toutes les idéologies, ont à cœur notre différence. On choisit le Québec parce que c'est francophone, parce que c'est différent, parce qu'on a cette culture, cette mentalité. Et elle mérite d'exister à long terme. Mais pour ça, on aura besoin d'un pays qui le reconnaît et assure notre autonomie, notre autodétermination.
Le sondeur Jean-Marc Léger était avec nous il y a quelque temps et tout en commentant vos bons chiffres, a souligné quelque chose qu'il souligne depuis longtemps. L'appui à l'indépendance, à l'idée de faire un pays, est autour de 35 %. Ça ne bouge pas. Si vous étiez élu premier ministre du Québec, d'abord, comment vous feriez pour faire décoller l'option en haut des 35 %?
C'est à 36 en ce moment. D'autres sondeurs comme Palace l'ont amené à 40. Mais en effet, c'est vrai que ça n'a pas bougé aussi spectaculairement que les appuis au Parti québécois. En même temps, moi, je suis reconnaissant parce que ce que je demande depuis un certain nombre d'années, c'est juste de l'écoute sur pourquoi un gars comme moi, puis d'autres avant moi, en sont venus à la conclusion qu'il fallait devenir un pays. Pour toutes sortes de raisons très fondamentales. Du moment que j'ai l'écoute d'une bonne partie de la population, même de ceux qui ne voteront pas Parti québécois, qui sont prêts à écouter ces raisons-là, c'est déjà un acquis important. Donc, j'ai pas la prétention de faire bouger par magie en très peu de temps les appuis, puis je n'agis pas en fonction de ces sondages-là, j'agis en fonction de ce que je juge nécessaire pour l'avenir du Québec.
Mais il doit y avoir une frustration chez vous. Votre cote de popularité monte, celle de votre parti monte, votre option fondamentale, elle monte pas.
Elle monte timidement, mais ça ne veut pas dire que dans un an, lorsqu'on va se reparler, ça n'aura pas bougé. Donc, il faut faire les choses en fonction de ce qui doit être fait. Papineau disait « Fais ce que doit, advienne que pourra ». C'est encore vrai aujourd'hui. Puis, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais en même temps, je pense qu'il y a une écoute de la population, et déjà ça, moi, je suis reconnaissant, puis je continue à expliquer les raisons de ce projet de société qui est, à mon avis, rassembleur, est nécessaire.
La CAQ a perdu son whip, en fait. Le whip est parti, garde son poste de député. Éric Lefebvre va se présenter avec les conservateurs. Est-ce que vous avez une chance de gagner son comté, vous pensez?
Oui. Oui, comme
ça
d'ailleurs...
me semble une terre assez conservatrice.
C'est, rappelez-vous, dans Jean Talon, on n'avait jamais gagné Jean Talon de toute notre histoire. On ne partait pas en avance. On a une chance. On a vraiment une chance légitime. Est-ce qu'on est en... Il n'y a aucune garantie. Il faut prendre ça très au sérieux. Mais est-ce que c'est faisable de réussir cet exploit-là? Oui, c'est faisable. Et on, comme dans toute chose, on va donner le meilleur de nous-mêmes, se préparer. Et peut-être qu'il y aura d'autres partiels aussi. Hein? C'est pas exclu.
Parce qu'il y a peut-être d'autres caquistes qui vont démissionner. Voilà. Entendez-vous des bruits?
Ben, c'est qu'un parti comme le Parti québécois, quand on a traversé les moments plus difficiles, il y avait quand même un ancrage très profond, une adhésion au pourquoi du Parti québécois. Le pourquoi de la CAQ me semble très flou. Et donc, c'est pas exclu que d'autres personnes prennent des décisions en fonction de leurs intérêts, de leur cheminement professionnel et non pas de la cause de ce parti-là.
Donc, Éric Lefebvre qui s'en va avec Pierre Poilievre. Je suis curieux d'avoir votre point de vue sur Pierre Poilievre, qui est la star en politique canadienne, domine dans toutes les régions du Canada, sauf le Québec. Pourquoi il pogne, vous pensez?
Il pratique un style de politique qui n'a pas encore percolé ou n'existe pas à proprement dit sur la scène québécoise, qui est vraiment les superlatifs, une forme d'agressivité même pour diviser en deux groupes la population. On l'a vu pour les maires de Québec et de Montréal. On peut être critique d'une mairie, mais des charges vraiment frontales avec un ton qui semble plaire ailleurs dans le Canada. Mais il faut dire aussi que, tu sais, quand on regarde un certain nombre d'éditoriaux et de sondages au Canada qui portent le thème de « Canada is broken »,
le Canada est brisé.
Le Canada est brisé selon plusieurs Canadiens. Historiquement, il n'y avait que le Québec pour dire le Canada est brisé, en tout cas en ce qui concerne notre avenir et nos intérêts. Cette idée-là, maintenant, elle est généralisée. Plusieurs personnes se posent la question, à quoi sert le Canada? Et pourquoi je laisserais un gouvernement par-dessus mon gouvernement m'endetter à ce point en échange de presque aucun service? Donc, Pierre Poilievre semble être capable de canaliser une insatisfaction vraiment marquée, pas juste au Québec. Son style, par contre, ne convient pas. Certaines de ses positions aussi sont identiques à celles de Justin Trudeau en termes de respecter l'autonomie du Québec, les lois du Québec. Donc, je pense que le Québec, à nouveau, sera figure d'exception. Mais dernière chose aussi, c'est que c'est un système à deux parties, là. Donc, il y a une alternance aussi naturelle parce que clairement, les libéraux de Justin Trudeau sont en fin de parcours. Là.
Merci de votre visite, M. Saint-Pierre Plamondon.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Oui, Catherine Beauchamp est là avec une invitée de marque dans sa première chronique showbiz de l'émission, Sophie Grégoire Trudeau, qui est connue d'un océan à l'autre et qui sort ce jour-ci un livre, j'allais dire une biographie, mais c'est plus que
non,
ça, Catherine.
C'est pas une biographie. Ça s'intitule Entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer. C'est vraiment un guide pour trouver l'équilibre, pour apprendre à vivre, je pense. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas très zen avec vous-même, eh bien, vous allez probablement avoir beaucoup de clés qui sont offertes dans ce livre-là. Mais moi, Sophie Grégoire Trudeau, bonjour.
Première Sophie. Non, là, j'ai tellement entendu de madame au cours des dernières années, là, je me suis jamais identifiée à ça. Alors, juste Sophie, c'est bien correct.
Pourquoi ne pas avoir écrit une bio sur Sophie Grégoire ou Grégoire Trudeau ou Sophie? Parce que au lieu de faire des conseils de vie.
Mm-hmm. Parce que ce n'était pas le but. Moi, il y a 20 ans, quand je travaillais, j'étais jeune animatrice radio-télé. Quand je commençais, j'ai partagé mon histoire du fait que j'ai souffert de désordre alimentaire. Ça a donné une direction, un sens à ma vie qui m'a donné beaucoup d'intégrité puis de congruence à l'intérieur de moi. Je me suis aperçue qu'en partageant mon histoire, je laissais un espace à d'autres pour le faire. Et j'ai continué, tu sais, à travailler sur ce chemin-là, même si j'étais plus dans les médias de la même manière. J'ai travaillé, je faisais des capsules à Elle Canada, Elle Québec. Je faisais beaucoup de trucs de manière bénévole au cours des 10 dernières années. Et là, je me suis rendu compte qu'avec le temps, ça fait 20 ans que je suis sur le parcours pour mieux comprendre notre santé mentale puis le rouage de notre personnalité en tant qu'être humain, qu'en partageant une partie de mon histoire, ben, je laisse la porte ouverte aux gens d'être assez vulnérables et de se sentir en sécurité pour pouvoir partager la leur, mais aussi que tous les experts que j'avais rencontrés sur mon chemin, extraordinaires et les meilleurs dans leur domaine, qui nous démontrent avec la science puis la recherche comment mieux se comprendre, parce que tout le monde, il y a tellement de gens dans notre société qui doivent composer avec le stress, l'anxiété, la dépression. On est dépassé par les événements de la vie, par les crises auxquelles il faut qu'on fasse face. Et entre vous et moi, juste ici dans le studio, là, est-ce que vous êtes capable de dire que sincèrement, vous avez la capacité de réguler votre propre système nerveux en situation de stress, de voir les émotions monter, de savoir les rattraper, d'être capable de régler un conflit quand ça ne nous tente pas ou d'être à l'écoute profonde au lieu de vouloir parler puis prendre la parole?
Le livre me semble être une recherche, c'est aussi la quête d'une recherche d'équilibre. Est-ce que vous avez manqué d'équilibre dans votre vie?
Je pense qu'on manque tous, par moment, d'équilibre. On n'est pas venu sur la planète Terre, à mon avis, pour être des êtres heureux, tout est rose, tout est beau. On est en quête d'une prise de conscience et le processus d'individualisation, c'est une responsabilité. Si tu regardes l'état du monde aujourd'hui, que ce soit dans les leaders ou des présidents de compagnie ou des enseignants, des travailleurs, les gens... La maladie mentale et les troubles de problèmes mentaux sont la première cause d'absentéisme au travail. On fait face à une crise. Elle était là il y a 20 ans. Mais là, avec la pandémie, ça s'est exacerbé.
Mais vous comprenez que... Je trouve que c'est bien intéressant d'avoir voulu donner ces conseils-là. Mais peut-être que les gens sont assez curieux après votre passage comme première dame au Canada, aurait aimé ça peut-être avoir peut-être une coulisse de ce que c'est être une première dame. Vous aviez vraiment pas envie d'aller là?
Bien, premièrement, je me suis jamais vue comme une première dame. C'est pas comme ça que je me définis en tant que personne. Je joue pas de rôle. Je reste la Sophie que je suis dans le contexte qui m'est amené. Et j'ai beaucoup appris au cours des dernières années. Et ce qui me définit dans mon travail, c'est ça. Ce n'est pas un rôle de première dame. Alors, pourquoi est-ce que j'irais partager quelque chose qui ne m'appartient pas, qui n'était simplement comme une espèce de co-accompagnement d'un partenaire qui faisait cette job-là? Alors, l'intégrité est beaucoup plus sur le chemin que j'avais déjà emprunté et que j'ai continué à marcher puis à découvrir.
Bien, c'est quand même... C'est parce que l'expérience que vous avez vécue, on s'entend qu'elle est hors normes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ça dans une vie. Vous avez rencontré un paquet de gens, des leaders à travers le monde, des femmes hyper intéressantes. Vous avez rencontré Hillary Clinton, qui d'ailleurs fait une note à l'endos de votre livre. Et j'ai l'impression qu'il y avait comme un besoin de peut-être savoir un peu comment vous avez passé au travers de ce voyage-là qui est vraiment surnaturel. Là.
Mais j'en parle. J'en parle dans le livre. Je parle de ce qui est important et ce qui fait du sens et ce qui est relié au contenu du livre. Donc, pour moi, je ne suis pas très intéressée par ce qui est potinage ou de trucs qui sont pas... qui ne marquent pas un parcours puis qui nous apprennent pas plus sur qui on est. Donc, j'ai utilisé mes passages, justement, en co-politique,
oui.
Puis à mes rencontres extraordinaires que j'ai faites, puis les événements dans lesquels j'ai été amenée puis projetée. Puis j'en parle là-dedans, mais le but n'était pas de faire un passage et de repasser tout ce que moi, j'avais vécu. Ma vie ne tourne pas autour de moi. Ma vie tourne autour des gens que je veux aider. C'est ça que je veux faire dans la vie, moi.
Sophie, vous aviez une carrière avant de rencontrer M. Trudeau, devenir son épouse, fonder une famille et qui devienne premier ministre du Canada. Là, l'autre phase de votre vie, là, vous êtes séparés. Écoutez, comment on se développe comme personnalité publique, comme personnage public, quand notre identité a été, puis je veux pas vous réduire à ça, là, mais la femme de...
Mais deux choses. Je me suis jamais perçue comme une personnalité publique. J'ai rencontré
mais vous
assez...
vous l'étiez malgré tout.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je suis en désaccord de comment moi je l'ai vécu. Et j'ai rencontré assez de reines, de rois, de papes, de gens avec des grands titres et des grands accomplissements pour réaliser que ce n'est qu'un vent d'illusion, la célébrité, puis notre obsession, puis l'adoration de gens qu'on connaît à moitié, qu'on pense connaître avec des petites photos de parcelles parfaites de vie quand c'est pas du tout le cas. Et moi, la souffrance, je l'ai vue partout, dans les gens qui sont bien nantis, autant que dans les gens qui ont rien d'envie. Et un système nerveux qui est en alerte, c'est pas grave si t'as 6 chars, 4 maisons, puis des voyages de rêve, si t'es pas bien, t'es pas bien. Et il faut arrêter de juger la souffrance des autres.
Avez-vous été surprise par l'entrée en politique? Parce que ça peut être une bonne secousse.
C'est clair. Si on te disait au tout début comment ça allait être en politique, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui continueraient. Puis je dis ça, mais en même temps, j'ai un respect profond pour les gens qui sont au service public, malheureusement, des fois. Puis à cause des médias et de la division, de la polarisation et du fait qu'il y a beaucoup de mouvements, de groupes qui vont cibler la peur et l'insécurité des gens pour aller chercher leur attention, ça, c'est dangereux. Ça met notre liberté de presse en danger et notre démocratie.
On va faire une petite pause, Sophie Grégoire Trudeau, et au retour, on poursuit la conversation autour de votre livre « Entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer ».
Avec plaisir.
Encore quelques minutes avec Sophie Grégoire Trudeau qui lance son livre « Entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer ». Sophie, vous êtes séparée de votre ancien conjoint, le premier ministre M. Trudeau, le père de vos enfants, ça va très bien. J'aimerais que vous nous parliez un peu des enfants, justement. Ils ont grandi dans une famille qui sont des gens connus. Vous, vous dites que vous ne l'êtes pas, mais
mais
le père des enfants est le premier ministre du Canada, tu sais.
Oui,
il y a quelque chose de complètement anormal là-dedans pour des enfants.
Parce qu'ils ne l'ont pas choisi.
Ils l'ont pas choisi, mais si vous veniez passer une semaine chez nous, dans notre maison, puis voir comment on interagit entre nous, je pense que les enfants se nourrissent pas seulement des paroles de parents, mais de l'énergie et de comment nous, on interagit avec le monde.
Non, Sophie, ça je comprends ça, OK? Ouais. Mais regardez, moi, là, mon enfant, là, si quelqu'un veut le trouver, vous le trouverez pas. Tu comprends? Parce que c'est pas une personnalité publique. Dans votre cas, on connaît le nom de vos enfants. On a vu leurs photos, puis je dis pas que c'est mal. Je dis que ça fait une enfance qui est anormal. Comment vous avez encadré les enfants pour pas qu'ils soient bousillés avec ça?
D'amour, de stabilité, de présence accrue, de compassion, de conscientisation, de se parler des vraies affaires quand ça fait mal.
Est-ce qu'ils sont devenus adultes trop vite? Est-ce qu'ils sont en train de devenir adultes trop vite?
J'aimerais tellement ça que vous puissiez passer du temps avec eux. Je pense que souvent, le plus beau compliment que je reçois, c'est que tes enfants sont vraiment « groundés », Sophie, puis ils ont le cœur ouvert. Elles allaient me faire pleurer.
C'est jamais facile de parler des enfants.
Non, je sais, hein. C'est du bon monde, mes enfants. Puis je pense qu'ils ont reçu tellement d'amour et ils continuent d'en recevoir. Puis pas seulement ça. Justin et moi, on est encore reliés par tellement d'amour. On vit dans une société où on pense que quand on vit une séparation, parce qu'on a juste deux mots, hein, mariage égale succès, divorce, séparation égale échec. Je suis en désaccord avec ce complet. Il y a une éducation relationnelle à vraiment repartir parce que les gens et les couples, il y a beaucoup de couples qui souffrent, là, qui se demandent comment évoluer dans le futur et tout ça. Quand tu as assez de respect, d'amour, de maturité émotionnelle et d'ouverture et de sentiment de sécurité dans toi-même, la différence de l'autre te menace moins. Et dans un couple, ça devient la plus grande des vérités. Parce que Rosemarie Charest en parle dans mon livre, là, quand je la passe en entrevue. C'est vraiment ça qui fait qu'on... Les gens les plus insécures ont peur de la différence de l'autre. Fait que regarde l'état du monde en ce moment, puis mets-la dans ton propre couple, puis regarde à quel niveau on n'a pas vraiment d'espace entre la séparation puis le mariage, comme si la vie se passait pas entre les deux, mais la vie se passe entre les deux.
Mais il y a quand même quelque chose de particulier, parce que c'est pas arrivé souvent que pendant des mandats de premier ministre, il y avait une séparation. Déjà là, souvent les gens vont prendre leur gaz égal, vont attendre à la fin d'un mandat, vont faire ça dans un milieu peut-être plus discret. Quand vous avez pris la décision de l'annoncer publiquement, est-ce que vous avez évalué un peu autour de vous de dire... peut-être qu'on devrait annoncer ça plus tard.
Penses-tu que j'ai pensé à tout ça? Oui, j'ai pas seulement pensé.
L'idée de le cacher, peut-être.
Je suis pas capable. C'est pas moi. Et aussi, tu sais, on vient... Je vais vous répondre avec ça. On vient au monde avec deux besoins inhérents qui sont communs à tous les êtres humains sur la planète. Okay? Puis là, je cite Gabor Maté dans mon livre, qui est notre grand Canadien spécialiste en traumatisme. L'attachement, comment on a été pris soin d'eux par le toucher, par le jeu, par la présence, par la légèreté d'être, par le fait d'avoir été validé par la présence d'un adulte quand on était un enfant, et l'authenticité. L'authenticité, c'est notre capacité d'exprimer qui on est dans l'aspect unique de notre personnalité. Tous les êtres humains ont un aspect unique à notre personnalité, sans changer notre comportement pour plaire aux autres.
Vous ne l'avez pas fait?
Attends, on le fait tous. On le fait quand on est enfant, puis on le fait quand on est adulte. J'ai choisi mon authenticité au-delà de mon attachement. J'ai dû prendre tout mon courage, mon intégrité puis ma vérité intérieure et de dire, prends la décision qui te concerne, qui va te faire évoluer, et le regard du monde, tu le projettes par la fenêtre, parce que vivre comme ça, en pensant que parce qu'on est une personnalité publique, il faut vivre avec le regard du monde et tout faire en relation avec ça, absolument pas.
Sophie, il vous reste quand même quelques années de vie active. Vous êtes une jeune femme. Qu'est-ce que vous
J'espère,
allez être?
Patrick.
Qu'est-ce que vous allez être dans les prochaines années?
Tu sais quoi? J'ai appris une chose. Je vais avoir 49 ans dans deux jours.
Dans 24 ans.
Exactement. Et j'entraîne mon cerveau à faire face à l'incertitude sans me sentir envahie par ça.
Mais ça, c'est pas une occupation, ça.
Inquiète pas que je vais me garder occupée. Je te le promets.
Une non-réponse.
Je rappelle le titre.
Merci, Edwy.
Entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer. Merci, Sophie Grégoire.
Merci à vous.
Merci.
Bonne chance. Je l'apprécie.
Oui.
Merci. C'était Sophie Grégoire Trudeau. Son livre est en magasin, dans toutes les bonnes librairies, sort en anglais et en français. Merci beaucoup, Sophie.
Patrick Lagacé, en accéléré.
écoute, je veux vous parler des Fées marraines. C'est une initiative formidable pour que des jeunes finissant du secondaire 5 qui n'ont pas nécessairement les moyens puissent se présenter au bal des finissants en brillant de tout leur feu. Ça dure depuis des années sous l'impulsion de Mme Linda Blouin. Mais l'inflation se fait sentir et la demande pour des robes, pour des habits de bal de finissants de seconde main, ben ça explose. Linda Blouin est au bout du fil. Elle est présidente et fondatrice de l'organisation Les Fées marraines. Madame Blouin, bonjour.
Bonjour, Patrick. Ça me fait vraiment plaisir d'être là.
Réciproque, on va essayer de vous donner un coup de main, OK? Je sais que la saison des bals approche, tout coûte cher, et vous, vous essayez de faire en sorte que, dignement, ceux qui n'auraient peut-être pas les moyens, ceux et celles qui n'auraient peut-être pas les moyens d'aller au bal des finissants, puissent y aller en brillant de tout leur feu. D'abord, racontez-nous comment ça a commencé, les Fées marraines.
Bien, ça a commencé par le besoin dans le milieu dans lequel je travaillais, soit l'école Antoine de Saint-Exupéry à la CSPI. Et puis, d'année en année, le besoin augmentait. Et puis, on a décidé de créer un petit garde-robe. Et un jour, la presse a eu vent et on a fait la première page en 2014. Et de là, tout a explosé. Donc, on a commencé à développer un service vraiment plus professionnel que dans un petit milieu, que dans une école seulement. En plus, maintenant, c'est près de 150 écoles qui sont accueillies aux Fées marraines à chaque année.
Donc, ça a commencé petit, c'est devenu gros. Et je dois le dire, Mme Blouin, il y a quelques années, je suis allé, c'était une matinée, là, c'était dans l'est de Montréal, et il y a des jeunes filles qui venaient essayer des robes, essayer du maquillage, etc. Et c'était très, très beau à voir. Là, vous avez étendu le service aux garçons, et si je comprends bien, vous avez beaucoup, beaucoup de demandes et vous n'êtes pas certaine de pouvoir faire face à la demande cette année.
Bien, ça a complètement explosé. On avait l'objectif d'habiller 400 filles, 400 jeunes, d'accueillir 400 jeunes aux journées boutique robes, parce qu'on fait pas de discrimination. Et puis, on a eu 470 demandes. Hmm. Et pour les garçons, l'an dernier, c'était 125, notre service. Cette année, on a doublé notre service, puis on déborde à 275. Alors, comprenez que on veut pas laisser personne en arrière, mais on est 9 bénévoles qui tiennent ça à bout de bras, et puis on va avoir besoin de soutien des gens.
Bon, ben lancez l'appel. De quoi vous avez besoin?
Ben naturellement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est sûr qu'on a besoin d'argent. On a besoin de magnifiques robes, de magnifiques souliers pour nos jeunes filles. On a aussi besoin de gens. On cherche quelqu'un aux communications. Alors, s'il y a quelqu'un qui est prêt à travailler au com pour nous, naturellement, gratuitement, ça serait extraordinaire. On travaille vraiment, vraiment fort. On a eu quand même pas loin de 300 bénévoles qui sont venus nous épauler en fin de semaine. Et puis, on répète l'opération en fin de semaine prochaine pour les garçons. Alors, c'est sûr que ça prend beaucoup d'énergie. Pour nos bénévoles, c'est complet, mais on a toujours, s'il y a des bénévoles de service qui voudraient nous être offerts, alors on serait prêt à accueillir tous ces dons généreux.
OK. Donc, si les gens dans leur garde-robe, là, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, s'ils ont des vestons cravates, elles ont des robes, vous êtes encore preneuses et évidemment pour des dons en argent.
Oui, oui, nécessairement, ça nous prend des belles robes au goût du jour, naturellement, préférablement très longues. C'est le besoin de nos jeunes filles, c'est ce qu'elles désirent. Et puis des bijoux de soirée, des chaussures à talons de soirée, ça nous fait toujours grand plaisir de les recevoir. Naturellement, les habits, on a un service avec Angoumane qui est un habit neuf, puisque c'est très difficile de recycler un habit. Si je prends un habit, je prends un habit, ton habit, et je le mets sur M. Arcan, par exemple, ça ne fonctionne pas.
C'est plus facile d'ajuster une robe de soirée qu'un complet cravate, c'est ça?
Oui, puis les complets, habituellement, les hommes les portent beaucoup, tandis que les robes de soirée, elles sont portées une fois. Donc, oui, c'est très facile de les recycler. C'est pour ça qu'on a un partenariat avec cette équipe-là.
Parfait.
Mais bon.
Je rappelle que vous êtes Linda Blouin, la présidente fondatrice des Fées Marraines. Les gens peuvent vous trouver sur Internet, juste à taper dans Google les Fées Marraines. Très facile, on va tomber sur votre site. Toutes les causes sont bonnes. Il y en a plusieurs. Oui. Il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin de bras, des bénévoles, qui ont besoin de denrées, des fois, en nourriture, d'argent. Expliquez pourquoi vous vous êtes lancé dans cette cause-là, ce qui est une cause, je dirais, qui était orpheline, aider des kids à aller au bal de finissant en n'ayant pas l'air de gueux.
Du fait que ça existe, on ne devrait pas discriminer les gens. Du fait que c'est questionné par l'école, on ne devrait pas discriminer. Toi, tu viens et toi, bon, tu n'as pas d'argent, alors reste chez toi. Les gens ont le droit à célébrer leurs jeunes. On a de moins en moins de rites de passage. Bon, moi, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi, m'a célébré, j'ai eu ma petite robe, tout ça. Je me suis mariée. Aujourd'hui, on en a moins de rites et du fait que qu'il y en a moins, mais celui-là est devenu plus important. Et on ne pense pas qu'on change la vie de quelqu'un en lui remettant une robe ou un habit, mais on sait qu'on soulage les pressions financières sur les familles parce que les gens, ils veulent pas. Les parents, là, même s'ils sont en détresse financière, ils veulent pas que leurs jeunes en souffrent. Alors, ils vont faire des sacrifices, peut-être pas, ou des choix, peut-être pas toujours judicieux. Puis nous, ce qu'on veut, en leur offrant la robe et tout ce qui est l'habit, c'est que les sous qui seraient mis, qui seraient placés pour cette occasion-là, soient placés plutôt vers les études et en même temps donner une chance pour poursuivre leurs études parce que c'est facilement 800 $ le bal de finissant. Alors 800 $, ça peut presque payer un an de cégep.
Bon, ben l'appel est fait, Linda. Merci beaucoup. Merci. C'est une très belle cause, je le rappelle. Vous êtes présidente, Linda Blouin, des Fées Marraines. Les gens peuvent vous trouver là, via Google très facilement. On appelle à la générosité. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Valérie.
Salut Patrick.
Donc le procès historique et procès criminel de Donald Trump, ça a commencé officiellement aujourd'hui. Comment ça s'est passé?
Oui, c'était la première journée, donc il y avait les 12 membres du jury qui étaient présents, bien sûr Donald Trump parce que c'est l'accusé, il n'a pas le choix d'être là à partir d'aujourd'hui. Ce matin, on a donné des instructions aux membres du jury, justement de rappeler que Donald Trump est innocent jusqu'à preuve du contraire, qu'il a la question du doute raisonnable, donc s'il y a un doute, on doit l'acquitter. On a parlé des chefs d'accusation, puis ça a été vraiment l'ouverture du procès où on a parlé des arguments de part et d'autre. Donc la présentation, entre guillemets, de la preuve des procureurs, ceux qui poursuivent Donald Trump et de l'autre côté de la défense. Donc, on a une idée déjà de leur stratégie pour cette poursuite. Et c'est allé assez rapidement. Là, je t'en parlais tout à l'heure en introduction d'émission. On a déjà entendu un premier témoin. Le premier témoin, c'est qui? C'est David Pecker. Pour les gens qui ça leur dit rien, c'était le roi des tabloïds il y a quelques années, propriétaire ou plutôt éditeur du National Enquirer. Donc, c'est vraiment là, ce matin, c'était assez... on expliquait comment qu'on achetait des histoires, soit pour les publier ou soit pour les tuer, pour reprendre l'expression en anglais, la traduction littérale.
C'est ça. Avant que le numérique explose comme ça, le National Enquirer, par exemple, Valérie, là, était spécialisé dans les histoires croustillantes. Mais ce qu'on apprend ces derniers temps, dans le cas de M. Trump, il ne faisait pas juste les publier. Des fois, ils achetaient les histoires et ils les enterraient au bénéfice de personnes comme M. Trump.
Oui, il y avait un code au sein des gens qui travaillaient au National Enquirer. Quand il y avait le code FOP, c'était Friend of Pecker, en disant que c'était ses amis. Donc, il y avait une liste de gens que si on mettait la main sur une histoire, on avait vent d'une histoire, parce que c'est vraiment des ragots, là, des potins. C'est pas des histoires qui sont totalement vérifiées dans plusieurs cas. Après ça, ben on disait, il faut qu'on empêche cette histoire-là de voir le jour. Alors, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on parle peut-être à M. Trump pour lui dire, ben paye pour que l'histoire disparaisse.
Et pour en ajouter au côté un peu croustillant, Pecker, dans le jargon anglo-saxon, ça désigne aussi, c'est pas juste un nom de famille de l'éditeur, ça désigne aussi l'appendice sexuel mâle. OK.
Voilà.
Est-ce qu'on sait si Michael Cohen, l'ancien avocat qui a viré sa veste de M. Trump, et Stormy Daniels, l'ancienne star du porno là, qui aurait été sa maîtresse, vont témoigner?
assurément pour Michael Cohen, parce que le procureur en a déjà parlé dans son ouverture en disant, vous allez voir, Michael Cohen, oui, a déjà menti, parce que lui, je rappelle qu'il a quand même fait de la prison pour avoir fait ce paiement à Stormy Daniels, pour avoir violé des lois électorales, mais ce que le procureur a dit, il est prêt à raconter son histoire, et vous allez voir que tout ce qu'il dit, on va le corroborer avec d'autres histoires ou d'autres documents, parce qu'on va avoir des messages textes, des courriels, des enregistrements, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, alors on va vraiment appuyer ça de faits clairs, selon bien sûr les procureurs. Alors ça, c'est quand même un élément qui est nouveau. Et pour Stormy Daniels, ben disons que la défense s'imagine que Stormy Daniels va être là parce qu'ils en ont parlé aussi en disant que finalement, elle voulait juste faire de l'argent, c'était son gagne-pain, qu'elle avait utilisé la notoriété de Donald Trump pour aller soutirer de l'argent dans un premier temps et elle voulait continuer de vivre avec les sous de M. Trump, ou plutôt les sous en ce moment des journalistes et des gens qui payent pour l'entendre.
Demain, c'est la deuxième journée d'un procès là, qui pourrait durer 6 semaines. Est-ce qu'on reprend directement avec les témoignages de l'ancien éditeur du National Enquirer?
Et tu sais que c'est jamais très simple, hein, les procès de Trump. Il y a toujours des procès ou des audiences en parallèle. Alors, je vais essayer de mêler personne. Oui. Mais non, on ne commence pas directement avec ça parce qu'à 9h30, on n'est pas avec le jury, mais on est vraiment avec les avocats et M. Trump pour déterminer si Donald Trump a déjà violé le fameux bâillon partiel qui est imposé. On s'en est parlé à plusieurs reprises. Mm-hmm. Il peut pas parler, par exemple, des membres du jury, intimider des témoins potentiels, parler des membres de la famille, des gens qui travaillent à la cour, que ce soit le juge, les procureurs ou autres. On a vu dans un autre dossier qui attaquait la greffière. Bref, sinon, il y a des amendes qui sont associées à ça et même de la prison si on finit par ne jamais respecter cette règle-là. On dit qu'il y en a pour 7 000 $, ça c'est les procureurs qui disent ça, d'amendes potentielles pour Donald Trump parce qu'il aurait, selon eux, violé déjà, avant même que le procès commence, cette entente-là, cette directive plutôt-là. Donc demain, le juge doit déterminer s'il paiera ce 7 000 $ qui est déjà la première peut-être d'une longue lignée de
paiement.
Mais
j'ai vu en fin de semaine, Valérie, qu'il a déjà commencé à s'en prendre, il a continué à s'en prendre au juge.
Oui, le juge a le droit, par exemple. Le juge et le procureur, il a le droit de s'en prendre à eux. Mais est-ce que ça peut l'aider dans sa cause? Je ne pense pas. Mais il a le droit parce que c'est des personnalités publiques dans ce dossier-là. Mais tout ce qui est autour du juge et du procureur, c'est interdit d'en parler. Autant les membres du jury, comme je te disais, que les témoins, ou entre autres, la fille du juge, là aussi, qui a été attaquée par le passé. Et à 11h, là, on reprend le témoignage de David Pecker, qui va continuer d'expliquer, de mettre la table. Juste dire qu'il a une immunité. Je le précisais, donc c'est pour ça que c'est un témoin des procureurs. Il a une immunité, donc il ne peut pas être poursuivi pour ce qu'il va dire dans ce procès-là.
On peut le dire, là, M. Trump, Valérie, a une attitude de défi. Hein? Il dit que c'est un procès politique, il dit que tout ça est arrangé par Joe Biden. Ceci étant dit, au-delà de son attitude de défi, est-ce qu'on sait ça va être quoi l'effet du procès sur sa campagne électorale?
Ça dépend si on se fie à l'effet des autres procès. Parce qu'il y a quand même eu 2 procès au civil. Il y a eu des apparitions de Donald Trump en cour. Il y a eu en Géorgie, il a fait prendre sa photo, sa fameuse mugshot. Donc, on sait déjà l'effet, disons, des tribunaux. Alors, si je me base là-dessus, ça aide Donald Trump au niveau du financement. Ça ne va pas lui nuire au niveau des intentions de vote. Au contraire. Alors, si on part de cette prémisse-là, ça ne veut pas dire que s'il est reconnu coupable, qu'il va automatiquement, pour moi, disons, perdre l'élection. Par contre, ça dépend des révélations qu'on va avoir. Et ça dépend aussi que si les indépendants, puis certaines personnes se disent, hey, là, il va aller en appel, puis on a encore des procès à venir. Est-ce qu'on veut vraiment entrer là-dedans, puis toujours être en train de parler des problèmes judiciaires de Donald Trump et non de ce que le pays veut pour avancer? Tu sais, ça reste qu'on parle juste de ça, là.
Je veux qu'on parle une seconde de ce qui s'est passé au Congrès en fin de semaine. Tu sais, on dit souvent que le Parti républicain s'est rendu le parti de Donald Trump. Il lève le petit doigt et tous les législateurs républicains lui obéissent. C'est pas ce qui s'est passé dans le vote sur l'aide à Taïwan, Israël et surtout l'Ukraine. Monsieur Trump a perdu, entre guillemets, ce vote-là parce qu'il voulait pas aider l'Ukraine. Non. Plusieurs républicains qui ont voté avec les démocrates et l'Ukraine va recevoir de l'aide. Ça dit quoi sur l'influence réelle de Trump?
Ben il y a une influence quand ça vient pour des choses peut-être différentes. Est-ce qu'ils vont l'appuyer lui ou non? T'sais, j'ai l'impression que quand c'est personnel à Donald Trump, son influence est beaucoup plus grande que pour le reste. C'est sûr que Marjorie Taylor Greene et une autre poignée de républicains sont encore vraiment derrière Donald Trump. Ils ont refusé de voter parce qu'il faut le dire, Mike Johnson, sans l'aide des démocrates, c'est mort. Il n'y en a pas aucun des projets de loi, aucun des budgets. Il y a quand même une majorité de républicains qui ont voté contre. Alors, on le voit qu'il est encore là, le pouvoir de Donald Trump. Est-ce qu'il est aussi grand qu'avant? Pas nécessairement. Puis Mike Johnson, c'est particulier. Il y a l'appui de Donald Trump et il décide quand même d'aller de l'avant avec ça. Il met même son poste en jeu parce que Marjorie Taylor Greene a dit il nous a trahis. Il a trahi les Républicains avec ce projet de loi-là en poussant pour de l'aide, entre autres, à l'Ukraine. Ce qui veut dire que s'il ne démissionne pas, on va le démissionner. Ça veut dire qu'on va lui montrer la porte, on va lui montrer la sortie et on va forcer un vote sur son leadership. Donc, on verra si M. Trump, rendu là, défend encore Mike Johnson. Mais t'sais, imagine, si on repart le scénario de trouver encore un président de la Chambre pendant des semaines. C'est incroyable.
Ça avait été un psychodrame quand M. McCarthy a été éconduit. OK, parle-nous de Joe Biden en terminant. Parce qu'il a parlé de quoi? De cannibalisme?
Oui. Tu as bien compris, mon cher Patrick.
Biden, cannibalisme, c'était pas dans ma carte de bingo, je te dis.
Non, dans la mienne non plus, mais je suis jamais au bout de mes surprises, je te le dis tout le temps. Alors, on est en Pennsylvanie ce week-end. Joe Biden parle à des vétérans de la guerre. Il est à un memorial, pardonne-moi l'anglicisme, donc un endroit très symbolique pour la guerre. Et il veut parler de son oncle qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit ceci sur son oncle et disons sa fin de vie.
He got shot down in New Guinea, and they never found the body because there were a lot of cannibals for real in that part of New Guinea.
Il parle, mon Dieu, il dit que son oncle, l'avion de son oncle a été abattu et qu'on n'a jamais retrouvé son corps parce qu'en Nouvelle-Guinée, à cette époque-là, dit-il, il y avait beaucoup de cannibales.
Écoute, et là, c'est comme s'il disait que son oncle s'était fait manger par les gens de la Nouvelle-Guinée.
Oui, mais
c'est carrément ça.
Pourquoi parler de ça?
J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est un lapsus? Mais un lapsus, pourquoi? Je ne sais pas d'où part cette fausse bonne idée de donner cette anecdote-là, mais c'est devenu diplomatique, un problème diplomatique, parce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas très contente des propos de M. Biden et on veut leur aide pour contrer les plans de la Chine. Écoute, c'est pas nécessairement la bonne stratégie de parler de cannibales et de politique étrangère.
Ben, je vais te laisser sur ces mots, Valérie. Bon appétit.
Merci.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.